mode d'emploi.
Bonsoir, Fréquence Paris Pluriel, 106.3, émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, animée ce soir comme chaque mois par une équipe altermondialiste de l'association Attaque et des journalistes du PIAF, journal d'information alternative. Ce soir avec Magali, Gaël, Boris et Pierre, mais également Jean-Marc.
Et merci Jean-Marc, et on commence par un petit sondage.
Alors, exclusif, la radio et le PIAF et Attaque ont ce soir un petit sondage exclusif, le sondage PVA Iglobe du 24 mars. Un sondage tout à fait particulier et qui va raviver les débats de la campagne. Alors, échantillon représentatif de 1024 personnes pondérées selon la technique du doigt mouillé. Alors, les résultats sont Sarkozy 9%, Hollande 20%, Mélenchon 40%, Le Pen 0,5%, Béraud 8%. Alors, pour nous éclairer sur ces résultats un petit peu originaux et inattendus, le commentaire de notre petit politologue Romuald de la Charrette.
Et merci de m'avoir invité. Alors, Sarkozy enregistre un bon score, si l'on considère son bilan, l'incohérence de ses propositions et le pourcentage de mensonges par meeting. Arriver à presque 10% des intentions de vote est déjà un beau résultat. On peut considérer par ailleurs qu'il fait le plein de voix des personnes qui peuvent avoir intérêt à sa réélection. Il est assez rassurant de voir que 90% des électeurs ne sont pas assez bêtes pour vouloir s'en prendre plein la gueule encore pendant 5 ans, ou entendre rigoler dès qu'ils franchissent une frontière.
Alors, c'est la loi du genre. Il y a un autre sondage qui est tombé aujourd'hui, le sondage du Bigaro Magazine, qui donne des résultats sensiblement différents. Le Bigaro annonce Sarkozy à 88%, Hollande à 10%, et le politologue du Bigaro nous dit que les autres, on s'en fout, puisque, de toute façon, ils votent pas Sarkozy.
Alors on continue avec des chiffres de l'actualité un petit peu plus crédibles. Cela vu qu'ils reviennent de la Cour des comptes qui aujourd'hui a donné des chiffres assez précis sur la répartition des moyens financiers envers les différentes régions de notre beau territoire national.
Alors le territoire national en ce qui concerne l'éducation non moins nationale est divisé donc en 26 parties, 26 académies et il se trouve que dans le rapport de la Cour des comptes, il y a un résultat très très étonnant et très très alarmant, c'est qu'après des années de politique de déstructuration de l'école et de perte de postes, on se rend compte que l'académie de Créteil, qui est l'académie de France qui concentre le plus d'élèves et qui concentre le plus de difficultés, arrive 22e sur 26 dans la ventilation des moyens. Voilà, donc un très très bon résultat de l'actuelle majorité en matière d'éducation.
Et à cette occasion, on peut s'amuser un peu à comparer ce qui peut nous attendre, c'est-à-dire de comparer les programmes des différents candidats sur justement cette question d'éducation.
Alors, le SNES, le syndicat majoritaire, a une bonne idée qui est de fournir aux enseignants, mais aussi à tous les non-enseignants qui s'y intéressent, un comparatif des programmes des candidats à l'élection présidentielle en matière d'éducation. Et ça donne des résultats assez intéressants. Si on regarde le NPA, Lutte Ouvrière, le Front de Gauche et le Parti Socialiste, on retrouve des lignes de force et des points communs. Comme par exemple le droit à la scolarité à partir de l'âge de 2 ans qui ne fait pas débat à gauche et chez les écologistes non plus. Par contre, si on compare avec l'UMP, par exemple sur la petite enfance, on s'aperçoit que la petite enfance pour l'UMP n'existe plus, sauf sous la forme de jardin d'éveil pour les enfants de 2 à 3 ans. Ce qui veut dire que les jardins d'éveil, ce sont des structures privées et la plupart du temps, évidemment, payantes. Donc, une légère différence qu'on notera assez aisément. Deuxième chose assez amusante dans le programme de l'UMP sur la petite enfance, c'est le fait de rendre obligatoire la présence en maternelle. En cas d'absence, ce serait l'éviction de la maternelle. Donc, il faut apprendre la ponctualité très tôt. C'est normal puisqu'on repère très tôt aussi chez Sarkozy les délinquants puisqu'on les repérait dès le spermatozoïde. Au début du quinquennat. Alors, de manière générale, on retrouve aussi dans les programmes des partis, donc depuis l'extrême gauche jusqu'au Parti socialiste et chez les Verts, la volonté de conserver le collège unique, en ce sens avec comme volonté d'arriver à une école égalitaire et une école qui ne laisse personne sur le bord de la route jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans, avec la volonté d'avoir un corpus éducatif identique pour tous les des petits Français, et pas Français d'ailleurs, qui fréquentent les bancs de l'éducation nationale. Et là aussi, petite surprise, on regarde le programme de l'UMP et on se rend compte que là, pour l'UMP, il y a une nouveauté ultra moderne, puisque ce sont des réformateurs qui vont vers l'avenir, c'est de réduire la scolarité obligatoire, en fait, concrètement, à 14 ans. Et de donner la possibilité à des enfants de 14 ans de commencer à travailler, mais pas vraiment des vrais travailleurs, ce seraient des apprentis, ce qui permet d'avoir des ouvriers pas chers.
Et on voit avec ça la fin du lycée professionnel qui serait pratiquement privatisé.
Alors le lycée professionnel, c'est déjà un vieux serpent de mer. Ça fait des années que les ministres de droite suppriment des options dans les lycées professionnels. Il y a 2/3 des BEP qui ont disparu. Pourquoi ? Parce que la volonté affichée et qui est répétée ici dans le programme de l'UMP, c'est de ne pas donner de moyens à l'éducation professionnelle pour une bonne et simple raison, c'est que pour l'UMP, l'éducation professionnelle doit être faite par les chambres de commerce, c'est-à-dire une privatisation totale de l'enseignement professionnel. L'intelligence de la main de Raffarin, on voit où ça mène.
Alors, autre point beaucoup plus triste d'actualité, c'est qu'on va quand même dire un mot du décès de Raymond Aubrac.
Alors, Raymond Aubrac, c'est bien sûr un grand résistant, c'est un bonhomme un peu hors du commun, et c'est même la moitié d'un couple hors du commun avec Lucie Aubrac, qui est morte déjà il y a quelques années. Et c'est l'un des derniers grands du CNR, le Conseil National de la Résistance. Et il est toujours intéressant de rappeler l'œuvre de ce CNR, c'est-à-dire des résistants qui se rassemblent alors qu'on est toujours occupé, que Vichy sévit encore en France, et des gens qui ont la lucidité de prévoir l'après-guerre et de prévoir un après-guerre fraternel, un après-guerre où l'éducation, où la fraternité sont au centre de tout le programme, et un programme qui va permettre le redressement rapide de la France à la libération, avec une sorte de consensus qui va depuis les communistes jusqu'aux gaullistes, grâce à ce programme du Conseil national de la Résistance. Et ces vieux messieurs, ces vieilles dames, en 2004, avaient déjà donc fait sur Internet, on voit qu'ils ont toujours gardé l'esprit jeune et résistant, un deuxième appel du CNR pour dénoncer justement la destruction de ce programme du CNR à travers les programmes du deuxième mandat de Jacques Chirac, ce qui n'a fait que s'accélérer avec le mandat de Nicolas Sarkozy, qui, par ses réformes, a piétiné justement tout l'idéal du CNR. Et c'est pour ça qu'on peut être carrément écœuré, être à la limite donc de la nausée quand on voit le candidat président rendre un vibrant hommage à celui dont il a piétiné les idées, et un vieux monsieur, mais qui est resté lucide jusqu'au bout et combattant jusqu'au bout, puisque l'année dernière, il faisait encore un appel pour résister à la politique de Sarkozy.
Et oui, les présidentielles sont maintenant bien face à nous, on en parle tout le temps. Et à force de parler du prochain président, quasiment de droit divin, qui va être bientôt désigné, on finit par oublier qu'il va devoir nommer un nouveau gouvernement. Et donc tous les matins, il doit penser que...
Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensées tristes. Je nommerais bien sûr Mickey, premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances.
Alors, Picsou aux finances, on l'a déjà eu. On a eu un ministre qui s'appelait un certain Francis Maire, qui ressemblait bien étrangement au personnage de Picsou. Un simplet à la culture, on peut se rappeler d'un vieux Jacques Toubon ou d'autres symboles qui peuvent représenter. Alors, Tintin à la police, peut-être un peu plus difficilement. Mais enfin, en tout cas, un gouvernement, on en a déjà eu beaucoup, mais on a toujours l'impression de voir toujours les mêmes politiciens, aseptisés parfois aux dents longues, c'est sûr, qui vont finir par avoir le pouvoir pour ne rien changer.
Si, Tintin, à l'intérieur, on l'a eu Brice Hortefeux, même type physique, mêmes opinions qu'Hergé.
Et même Houpette, effectivement, oui. Alors, pourtant, des alternatives à un gouvernement existent. On est quand même un certain nombre de millions de personnes sur ce territoire. Et trouver, par exemple, 18 personnes qui seraient venues d'horizons assez divers, qui pourraient se regrouper pour faire un gouvernement, ça serait une très bonne idée. Et c'est justement une idée qui a été faite par les éditions Le Muscardier, avec un livre qui s'appelle « L'alter-gouvernement », qui a rassemblé donc 18 personnes venant d'horizons assez différents, mais tous très compétents, pour être capable de former des alter-ministres et non des simples ministres. comme on en a l'habitude. Alors évidemment, un gouvernement bien décidé à ne pas croire aux fatalités que nous nous assènent tous les jours, fatalités de la crise, des guerres continuelles à travers la planète, des différences de richesse dans la société, des différences de niveau scolaire, bref, pas un gouvernement, mais un alter-gouvernement. Alors on reçoit justement l'un de ces alter-ministres, Aline Payet, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, oui, qui est donc ministre de l'Information, mais on va justement débattre des intitulés des ministères tout à l'heure. Et donc, pour présenter Aline Payet en une belle expression, vous êtes productrice à France Culture, militante engagée dans la solidarité internationale, l'éducation populaire et la critique des médias. Ça fait tout un programme
mal,
pour un bon programme pour
un
ministre.
Ouais, c'est pas mal, oui. Alors, d'ailleurs, tous les ministres devraient avoir un pédigré militant, me semble-t-il, non ? Sinon, pourquoi se mêler de la chose publique ?
Ils sont militants de leur cause à eux, déjà, souvent.
Ah ben, surtout de leur cause, oui, et puis de leur clan. C'est vrai qu'ils sont militants.
Alors justement, ces 18 alter-ministres ne correspondent pas du tout à ce schéma. Le gouvernement a été dû reformer, tout s'est bien passé.
Alors ça, je ne sais pas, parce que le Muscadier, c'est une petite maison d'édition pour l'instant, puisque son premier livre, ça a été celui-là. Et c'est ces deux jeunes éditeurs, enfin c'est un couple très militant, qui a eu l'idée de ce livre et qui a prospecté pour former... En fait, ils sont une sorte de premier ministre, quoi, tu vois, pour former le gouvernement. Et donc, ils ont appelé les uns et les autres et nous ne nous étions pas rencontrés avant. Chacun écrit dans son coin avec quelques contraintes qui avaient été données par l'éditeur. Mais évidemment, on se connaissait pour beaucoup parce que dans les milieux militants, on finit par se croiser. Et même, alors je sais pas pour les autres, mais je sais que pour Franck Lepage et moi-même, Franck Lepage qui est ministre de la Culture, moi, s'il n'y avait pas eu les Pinsons Charlot, s'il n'y avait pas eu Franck Lepage, Jacques Testard, peut-être j'y serais pas allée. Donc j'ai regardé qui y avait. Et je sais que Franck et moi, à un moment donné, on a beaucoup bataillé avec l'éditeur parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur ce qu'on gardait pas, etc. Et on s'est dit, bon, mais si toi tu t'en vas, moi je m'en vais aussi. Donc tu vois, ça a été quand même, on a un peu discuté. Mais on s'est rencontrés après. Et c'est sympa, quoi, parce qu'il y a débat, mais c'est normal, hein, en démocratie, il y a débat.
Alors il y a débat, peut-être que tous les ministres ne sont pas d'accord, mais ils ont fait des propositions assez intéressantes pour partir par exemple sur le ministère de la Culture, donc de Franck Lepage, qui est un militant de la cause culturelle comme il aime se présenter, qui est aussi quelqu'un assez impressionnant à voir sur scène lors de ces fameuses conférences gesticulées.
Avec la coopérative Le Pavé, parce qu'il est dans le secteur coopératif.
Une association qui est capable de proposer pour tous les publics des spectacles très intéressants.
Et même pour les syndicats, les entreprises, quand ils rentrent dans les entreprises, c'est pas par la direction, c'est en général par les syndicats. Et c'est vraiment intéressant de voir comment ils déconstruisent tout le langage managérial, au moment des retraites, comment il a rappelé ce que c'était que même une fiche de paye, par exemple. Il va devant les salarié, c'est est-ce que vous savez lire votre fiche de paye ? Et il fait ce qu'il appelle des conférences ou des conférences gesticulées. C'est vraiment de l'éducation populaire puisqu'il a formé, et il forme toujours des tas de gens qui vont, je sais pas ce que tu fais comme métier, mais voilà, chacun ici va pouvoir se former au pavé et pouvoir déconstruire et le discours et la manière dont il vit son métier, souvent dont il le subit, à travers cette technique très émancipatrice parce que les gens prennent la parole en disant c'est assez étonnant. Il va repasser au Grand Parquet dans pas longtemps. Mais allez sur Internet, vous allez voir, vous faites le pavé, vous verrez des extraits, c'est formidable.
Et il a beaucoup de recul sur ce que pourrait être une culture, un ministère de la Culture, et de proposer justement une déstructuration de la culture actuelle. Par exemple, une analogie qu'il fait dans l'ouvrage, c'est de dire que le ministère de la Culture devrait fonctionner comme le ministère aujourd'hui de la Jeunesse et des Sports. D'ailleurs, il propose un rapprochement de ces différents ministères.
Ce qui fut le cas à une époque, d'ailleurs.
De manière à ce que la culture soit diffusée au plus près des gens, parce que tout le monde ne fait pas la démarche d'aller vers la culture, il faut savoir la démocratiser et ne pas simplement financer, on va dire, la culture parisienne.
Oui, de la classe dominante, la culture dominante, la culture bourgeoise. Alors c'est vrai qu'on emploie des mots qui peut-être paraissent ringards, mais enfin on comprend bien ce que ça veut dire. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant de lire ce qu'il écrit parce qu'on y apprend beaucoup de choses sur Malraux, sur ce qui a été l'histoire aussi de ce ministère-là.
Aux affaires étrangères, l'alterministre est Suzanne Georges, qui est présidente d'honneur d'ATTAC, et qui fait des premières propositions très concrètes sur un ministère qui doit pas être évident à
très
imaginer.
Très difficile aujourd'hui.
Ouais. Alors sa première proposition, assez simple, c'est évidemment de reconnaître la Palestine.
Ouais. Alors ça, on est heureux.
Voilà, de sortir de l'OTAN et de tout ce que ça implique pour la France aujourd'hui.
L'OTAN en emporte le vent.
Oui, bien sûr. Et de retirer les troupes engagées dans différents conflits à travers le monde, des conflits qui font des bons relents d'anticolonialisme, de colonialisme, pardon, et de renoncer à la dette africaine, d'imposer à chaque traité européen de posséder une part sociale et non pas une simple part économique, et une part sociale importante, sinon le traité n'a finalement que peu d'intérêt. Voilà, donc d'autres alterministes sont des économistes, souvent militants de longue date de l'altermondialisme, par exemple, des collaborateurs du monde diplomatique pour parler des affaires étrangères, et donc à la culture.
Puis il y a Michel et Monique Pinson-Charlot qui sont ministres, je retiens jamais leur titre, mais...
Ils sont ministres de la réforme de l'État.
De la réforme de l'État, voilà. D'ailleurs, parce que ce que nous a demandé l'éditeur, c'est que parfois, moi je me mêlais, mais parce que le contenu l'autorisait, enfin, même l'impliquait, je me mêlais de réforme de l'État. Donc là, il me disait, non, on va le passer à Monique et Michel, et puis on va voir si, on va leur demander de reprendre ta proposition, ou avec la culture aussi, oui, ou avec l'éducation.
Suzanne George, d'ailleurs, le rappelle très bien dans sa partie, qu'il est très bien placé en premier, parce que chaque ministère, finalement, a des missions assez transversales.
Absolument.
Et notamment le fait de placer le ministère des Affaires étrangères en premier, traduit bien l'idée altermondialiste que les affaires étrangères, c'est pas seulement la géopolitique, c'est aussi s'occuper d'économie, d'écologie, de culture.
Bien sûr. Ouais. Donc voilà, on a échangé comme ça pour que chacun essaie de rester le plus possible. Mais c'est vrai que pour certains ministères, comme celui de Jeanne Jean, c'était compliqué. Mais moi, à un moment donné, je parle d'éducation, par exemple, tu vois. Voilà. Et alors, je suis ravie parce que les Pinson-Charlot ont repris texto ce que j'avais demandé réforme de l'État. Donc bon, voilà, on arrive à...
Ouais, mais en même temps, il manque un peu l'essentiel, parce que ce qui intéresse les journalistes, finalement, c'est de savoir la couleur des chaussures des ministres et de savoir la marque des vestes. Ouais. Et là, on sait rien du tout dans ce livre.
T'as pas vu que j'avais demandé...
Je trouve que c'est superficiel, quoi.
T'as pas vu que j'avais demandé, d'ailleurs, qu'il n'y ait plus de télévision en couleur. Non, je plaisante.
Dans les réformes potentielles de l'État par le couple ministre des sociologues Michel et Pinson-Charlot, il y a des propositions tout à fait concrètes et très simples, comme l'interdiction totale du cumul des mandats, accompagnée de tous les moyens mis en place pour permettre à une personne qui veut se lancer en politique mais qui n'a pas un emploi qui lui permet aisément d'accéder à ses postes, de pouvoir se présenter à une élection. Et après l'élection, de pouvoir revenir à son activité première.
Donc, alors ça, ça fait longtemps qu'on demande un statut de l'élu. Mais là, je dirais qu'on peut avoir une réforme intéressante avec un statut de l'élu qui permette effectivement que les gens ne s'accrochent pas à leur mandat. Mais on change pas, on bouleverse pas profondément notre société. On peut très bien avoir ça, même en société capitaliste. Bon, un peu plus progressiste, mais tout de même. Alors que ils vont quand même plus loin, et moi aussi. Et d'autres aussi dans ce livre, jusqu'à dire que finalement, tout le monde peut être ministre, tout le monde peut être élu, tout le monde peut être député, que ça ne devrait pas être ni un métier, ni un moyen d'assurer sa propre promotion sociale, etc., qu'il ne faudrait pas être payé. Alors moi, je propose qu'on ne soit pas... Pour l'instant, il y aura une période de transition où un ministre ou un député touche le salaire moyen national. Et moi, je suis ravie que ces deux auteurs citent les apatistes comme exemple, parce que c'est aussi eux que je cite dans mon et qui montrent que ce doit être une charge. Mais Louise Michel, au moment de la Commune, le dit la Commune fait un appel aux citoyens à Paris en disant n'allez pas vers les gens qui vont venir se présenter pour briguer vos suffrages, etc. Mais choisissez des gens qui ne se présentent pas et qui viennent de votre milieu, qui souffrent votre peine, etc., etc. C'est exactement ça. Et c'est vrai. C'est quelque chose qui existe depuis 18 ans, depuis la révolution du 1er janvier 94 au Chiapas chez les zapatistes. Donc c'est tout à fait possible. On n'a pas besoin de tous ces types là bien payés avec des chauffeurs, avec mais même, tu vois, moi je suis beaucoup allée dans les pays du Nord à une époque et notamment en Suède. Tu vas autour du Parlement, les parlementaires, ils arrivent à vélo, ils gardent leur vélo, tu le vois. Et alors tu te dis, mais pourquoi on fait ça chez nous, quoi? Pourquoi chez nous c'est pas possible? Pourquoi on a les gyrophares, mais même les patrons, enfin les secrétaires généraux des syndicats, des machins, ils ont tous des gardes du corps. Mais qu'est-ce que c'est ce bazar?
Une bonne vieille tradition royaliste qui n'est jamais...
Sans doute. Oui, et puis alors les autres avec leurs plumées, leurs chevaux, la garde républicaine, mais on est où là? Non mais franchement, on se croirait dans un film d'époque, enfin qui, tu vois, qui...
Non, ça c'est l'héritage,
en costume.
C'est l'héritage impérial romain, l'habitude des licteurs autour des élus.
Quand est-ce qu'on va arrêter avec ça? Sauf que les chevaux et les types qui sont bien formés par les chevaux, quand ils déboulent à une époque, on les a sortis, y compris en France, pour aller s'attaquer aux manifestants. Donc, tu vois, ils sont là, c'est pas que du symbole, quoi. Tu te dis, aïe, quand même.
Ouais, mais il faut pas être à cheval sur les principes.
Non, t'as raison.
Alors ça, c'est peut-être justement un bon exemple pour montrer à quel point un homme politique aime le pouvoir et aime tout l'apparat qui va avec. Il ne remettra jamais en cause ce genre de fonctionnement. Et c'est justement
surtout pas le salaire.
Et surtout pas le salaire. Ils ont systématiquement un enrichissement personnel à la fin de leur mandat en général. Néanmoins, ça prouve par cet exemple que un ministre aujourd'hui élu, choisi, ne va pas remettre en cause le passé.
Le système.
Or, ce livre va justement proposer des propositions qu'on aimerait entendre simplement d'être débattues dans les médias, et on les entend assez peu, finalement. Même cet exemple assez concret et assez simple n'est jamais redit dans les médias, sous prétexte peut-être parfois de populisme ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, des débats contradictoires qui contiendraient ne serait-ce qu'un ou 2% des propositions de ce livre, on aimerait les avoir dans des médias un peu nationaux. Alors on va parler en détail du ministère, donc de notre invitée Aline Paillet, qui s'appelle dans le livre Ministère de l'Information, mais un autre intitulé aurait pu être choisi, aurait dû être choisi, un petit peu plus long peut-être.
Ça a fait partie des bagarres avec l'éditeur, et il m'a promis donc acheter le bouquin, parce que, ou je sais pas, débrouillez-vous, mais si jamais il est réédité, il mettra le titre que j'avais mis initialement et qui a été censuré.
Alors le titre dans sa intégralité serait « Ministère provisoire, de la parole conflictuelle, du silence, des chemins buissonniers de l'information et de l'appropriation sociale des moyens de production et de diffusion ». Alors je crois que rien qu'expliquer le titre va nous permettre de voir globalement le programme
à
du
peu
ministère.
Près.
Alors déjà, ministère provisoire.
Provisoire, parce que quand ils m'ont appelé, je dis, moi je veux pas être ministre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, mais si. Bon. Alors j'ai dit, ok, je suis ministre, mais 3 mois ou 6 mois, mais pas plus, parce qu'après, tout ça va être pris en charge. Il faut bien comprendre que ce que nous disait l'éditeur, c'est on a gagné les élections, c'est-à-dire on a foutu en l'air complètement les partis traditionnels et qui ne remettent pas en cause le capitalisme, et on est dans une société, donc le début d'une société post-capitaliste. Parce que beaucoup de mesures, notamment que je propose, celle du silence, dans une société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est impossible. On envoie les gens au suicide. Donc il faut bien se dire que il y a des mesures qui ne pourront être prises que quand on aura effectivement fait cette révolution. Alors, il y en a qui pensent que ça peut être fait par les urnes, d'autres comme moi un peu moins, mais en tout cas, voilà. Donc, provisoire, parce que on n'aura pas besoin de... Moi, en tout cas, en tant que ministre, moi, je serai totalement provisoire et je partirai très vite. C'est-à-dire impulsion, travailler les questions, les mettre en débat, et ensuite, hop, c'est parti. Pour une démocratie directe.
Alors le deuxième intitulé, ça serait ministère de la parole conflictuelle, mais en général, c'est un rôle qu'on confie justement aux journalistes qui sont censés amener
Ils font du débat d'opinion. Alors, bon, je ne vais pas vous faire, on n'a pas le temps en cours et remonter à Platon et aux sophistes, mais enfin, on en est là. Hein. C'est-à-dire que ce sont des débats d'opinion totalement stériles. On peut débattre 4 heures, 10 heures, 20 heures. Chaque opinion se vaut. Il n'y a pas... tu vois, tout est mis à égalité et au fond, il n'y a pas réellement de parce qu'il faut du temps pour ça. Hein. Il faut du temps, il faut du travail, il faut des idées. Donc voilà, on est dans le débat d'opinion.
Et alors c'est justement une des mesures possibles pour permettre d'avoir une autre classe journalistique qui ne proposait pas ces débats, c'est une réforme des écoles de journalisme.
Alors oui, ça c'est très important parce que on le voit. Alors bon, il faudrait là aussi du temps, mais le recrutement des journalistes se fait dans des classes sociales, je sais pas comment ils disent en sociologie, mais plus. Et surtout, pendant longtemps, il n'y a pas eu. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. Ça n'existait pas, les écoles de journalisme, hein, pour savoir écrire, parler, analyser un texte, construire, chercher de l'information, la recouper. On n'a pas besoin. Au contraire, on avait besoin d'écrivains, de plumes. Bon, alors là, on pourrait en citer beaucoup. Donc, d'abord, moi, je suis pour. On fout en l'air toutes les grandes écoles, l'ENA, Polytechnique, Sciences Po, etc., et toutes les écoles de journalisme, déjà. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est les futurs patrons, employeurs des étudiants qui leur donnent les cours. Alors, tu vois, l'esprit critique, t'as pas intérêt à trop la ramener, parce que tu te dis, je vais pas avoir mon stage à la fin de l'année, et puis surtout, même s'il me donne un stage, il va pas me garder, parce qu'il aura vu que je suis un chieur à l'école, que je remets en question le savoir qu'il vient m'imposer, etc., etc. Donc, pas d'école de ce type. Et quelles sont les qualités du journalisme? Alors là, j'essaie de les citer, hein. C'est la curiosité, c'est le désir de partager le savoir qu'il sait faire, hein, puisque le journaliste sera là aussi, non pas simplement pour donner de l'information, mais pour partager les outils, c'est-à-dire faire de l'école, de l'éducation populaire et apprendre aux gens à écrire un article, à faire des prises de vue, à faire une interview, etc., etc. Puisque dans l'idée, les conférences donc de presse seront publiques, évidemment. Il n'y aura pas de présentateur vedette, on en changera toutes les semaines.
Sur la formation des journalistes, ouais. Vous proposez de supprimer la formation elle-même de journalistes ou de supprimer simplement les écoles de journalisme, mais de garder des formations universitaires, par exemple, destinées à être journaliste?
Non, moi je pense qu'il suffit. Non, on n'a pas besoin de formation spécifique. Après, tu fais un stage pour apprendre à parler dans un micro, etc. Ça peut en 8 jours. Tu formes quelqu'un, etc. Non, on n'a pas besoin. Pas du tout. Il faut savoir écrire, lire, être curieux, être critique. Alors, je demande qu'ils soient militants, engagés aussi, parce que on triche. On nous dit, ils n'ont pas d'opinion. Mais attends, on croit rêver. Là, tu les regardes tous les jours, tu vois bien qu'ils ont des opinions. Mais ils ne le disent pas. Il faut qu'ils aient un souci du collectif. Il faut qu'ils aiment être dans la rue, au contact, et pas enfermés dans des tours d'ivoire. Moi, j'ai vu des gens à France Inter, des journalistes qui sont plus là, d'ailleurs, Apathy, là, il est passé par chez nous, dans une AG, puisqu'on était en grève depuis 9 jours, il est venu voir ce qui se passait dans l'AG, il a eu peur, il nous l'a dit. Je lui dis, rassure-toi, on n'a jamais tué personne dans une AG. Oh, mais c'est violent. Attends, mais ces types-là sont censés nous expliquer le monde et pas voir la violence du monde. Ils ont peur de la violence d'une AG dans leur propre boîte. Mais c'est qui ces gens-là? Ils ont mis 9 jours pour venir voir pourquoi les gens de France Inter étaient en grève. Non, mais c'est des squatteurs. Non, mais il faut. Donc, tous ces gens-là, ils n'ont rien à foutre dans le journalisme. Ça, c'est pas des journalistes pour moi.
Mais le passage à des écoles de journalisme, est-ce que c'est pas le moment où justement le journalisme a basculé dans la com?
Ah,
parce
complètement.
Qu'on apprend la com, pas le journalisme.
Et dans la servilité surtout. Hein. Alors, évidemment, là-dedans, tu as bien sûr toujours des gens qui se sortent de cette emprise, hein. On en connaît quelques-uns, heureusement. Mais c'est très dur. C'est très, très dur pour eux parce qu'ils sont vraiment formatés. Et au-delà d'être formatés, mais beaucoup adhèrent parce qu'ils sont recrutés dans des milieux où, pour eux, c'est ça la vie, c'est ça la vérité, quoi, hein. Que le libéralisme, le capitalisme, on peut pas le dépasser, etc., etc. Ils sont d'accord avec ça. Ils sont pas juste formatés. Je pense qu'ils le pensent sincèrement pour beaucoup.
Pourquoi c'est pas vrai?
Ben, je sais pas. Mais tu vas me dire.
Alors, petite pause dans la description du ministère de l'Information. On va parler du ministère de la Culture avec un poème de Victor Hugo, chanté par Colette Mani, Les Tuileries.
Ah, merci. Alors, vous allez voir quelle chanteuse, quelle swingueuse. Et quel poème. Alors, il est un peu viril, ce poème. On me l'a reproché. Mais moi, j'aime bien. Tu vois, ça me déplaît pas, quoi. Les bandes, les copains. Je parle parce que je fais mon métier. Quand j'animais sur France Inter la nuit, eh bien, quand ça nous arrivait, parce que je rassure le camarade qui est derrière à la console, ça arrive aussi sur les chaînes nationales, eh bien, on apprend aux journalistes, non, mais aux animateurs, de combler. Ah bah non, ça dans les oreilles, c'est pas sympa, camarade. Non. C'est pas Colette.
Quand je vois le PCF,
on l'écoutera tout à l'heure.
On a quelques petits soucis mais c'est de ma faute. Bien nets.
Parce qu'au lieu d'amener un CD, j'ai amené sur mon portable la chanson et c'est pas évident de passer d'un outil à l'autre, effectivement. Bon, mais on va pas perdre par exemple. Mais parlons du silence, puisque c'est le ministère du silence.
Le nom suivant du ministère, ministère du silence.
Le stagiaire qui est derrière la glace, qui devait être payé à partir de 2028, il lourdait ce soir, quoi.
Alors profitons donc de ce silence que nous offre la technique pour parler du ministère du silence, qui a un autre nom du ministère de l'information. Alors pourquoi le silence ?
Alors le silence parce que trop d'informations tue l'information. On appelle ça d'ailleurs pas mal, on même défini comme du bruit médiatique. C'est-à-dire qu'à force de en boucle nous donner toujours les mêmes choses avec un rythme très fort, etc., on n'est plus apte à penser. Pareil pour les images, on est complètement submergé par les images. Alors bien sûr, dans une société post-capitaliste, ce que je propose, c'est que pendant 8 jours par mois et un mois par an, donc 8 jours par mois, donc 12 semaines de silence, des écrans. C'est-à-dire, il n'y a plus de télé, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de journaux. D'ailleurs, les journaux ne paraîtront pas quotidiennement de toute façon, parce que ça sert à rien. Hein, il faut prendre le temps de l'analyse, etc. À quoi ça sert en quotidien?
Vous allez
à part
pour interdire carrément les journaux de sortir?
Oui, bien sûr. Mais ça vous gêne? Vous trouvez qu'il y a la liberté de la presse avec tous les journaux qui sortent tous les jours, y compris gratuitement aujourd'hui? Racontez-moi ça.
Dans votre livre, vous parlez de protéger l'information. Votre manière de protéger l'information fait raison plus à un étouffement de l'information.
Bien sûr. Tout comme il y a beaucoup de livres qu'il faudrait déchirer. Mais je sais que je vais vous choquer là. Et évidemment. Alors je continue sur le silence, vous allez peut-être comprendre. Donc 8 jours par mois, une semaine par mois, silence de tous les écrans. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas rien. On organise des choses, c'est-à-dire que les radios, les télés, etc. s'ouvrent au peuple, les gens vont rentrer, les journalistes, les techniciens se mettent au service des gens, font de l'éducation populaire, leur permettent de construire et de fabriquer leurs propres images, leurs propres fictions, leurs propres reportages, etc., etc., et de fabriquer leurs propres informations. Et un mois par an, les programmes ainsi créés dans ces semaines de silence seront projetés avec le choix. Par exemple, les gens de Strasbourg diront, mais tiens, on veut voir le reportage qui a été fait par les mecs de Marseille sur je ne sais quoi, ou ceux de, etc. Pendant cette semaine, il y aura aussi des débats publics dans tous les lieux publics où on mettra au service des citoyens et des débats tous les outils, les savoir-faire des gens qui, en général, s'occupent de l'information, des archives, etc. Il y aura aussi des bals populaires parce que je pense que c'est très important de renouer avec le chant, avec la danse, avec la discussion, etc. Et avec la fête. Donc, ça sera au choix. Les gens ne seront pas obligés de faire de l'information. Hein. Et donc voilà. Et les balles populaires, elle est là, l'information, la chanson. Eh bien, vous allez voir. C'est une partie de ça. Il faut retrouver. Le capitalisme a besoin de gens déprimés. D'accord ? Eh bien, il faut retrouver le goût du bonheur d'être ensemble.
Donc, Colette Mani, les Tuileries.
Nous sommes deux drôles. Aux larges épaules, deux effroyables, nous sommes des diables, nous sommes des dieux.
Bonsoir, Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs des précaires, animée par une équipe altermondialiste d'attaque et les journalistes du PIAF.
Avec pour invité aujourd'hui Aline Payet, alterministe de l'information, du livre L'Altergouvernement, des éditions Le Muscardier.
Enfin, le Muscardier, hein, comme la muscade, vous savez, c'est bon, c'est une épice, la muscade. Hein.
Alors, ministre de l'Information, mais on a vu avec elle qu'elle préférerait être ministre provisoire de la parole conflictuelle, du silence, des chemins buissonniers de l'information.
Alors, les chemins buissonniers de l'information, c'est ce qu'on fait là, par exemple. On est en plein dans les chemins buissonniers. Mais c'est aussi les tracts, mais c'est aussi les bouquins qu'on lit, c'est aussi les discussions qu'on a, etc.
Et un autre sujet un peu plus contradictoire, en tout cas qui fait débat autour de cette table, c'est, enfin un vrai débat celui-ci, pas un débat arrangé, on espère qu'on va d'ailleurs se mettre d'accord sur certains points à la fin, l'appropriation sociale des moyens de production et de diffusion. Déjà, un terme marxiste et volontairement marxiste.
Oui, volontairement marxiste, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi, c'est parce que ça s'appelle, enfin, l'appropriation sociale, oui, mais je vous signale que quand même, il y a eu la fréquence Paris Pluriel, très concrètement, et toutes les radios qui voudraient avoir une fréquence aujourd'hui, vous devez, c'est très compliqué. Or, quand si on renationalise TDF, tout ce qui est le c'est un bien commun comme l'eau. Comme, alors, ça nous gêne pas sur l'eau, et tant mieux de dire l'eau est un bien public et il doit pas être confié au privé. Mais par contre, les ondes, qu'elles soient hertziennes ou qu'elles soient la TNT, etc., ça nous gêne pas que ce soit privé et que ça devienne payant et que, évidemment, les radios des citoyens n'aient que peu de place quand un jour ils n'en auront plus du tout, d'ailleurs, etc. Donc, je vois pas où est le problème. Bien sûr qu'il faut, mais appropriation sociale, ça veut dire que c'est pas l'État. Moi, je suis pour le dépérissement de l'État. Je suis contre le travail salarié aussi. C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout du marxisme, je m'arrête pas au milieu du guet avec un marxisme productiviste qui a juste changé la classe capitaliste par la classe prolétaire et qui s'arrête là et qui continue à produire n'importe comment. Alors, dit, et
vous,
à tout va.
Ceci dit, vous proposez quand même de remettre en cause la loi TASCA de 90
qui cassait
le monopole de la Société française de production.
Oui, bien sûr.
Dans la production pour
le décret TASCA est une catastrophe.
Mais remettre en cause cette loi TASCA, est-ce que ça ne risquerait pas de nuire à la diversité de la production culturelle? Pourquoi est-ce que la production culturelle, enfin la production des œuvres qui passent à la télé publique, devrait être confiée à une seule société de production?
Non, elle doit être interdite à des sociétés de production privées qui sont détenues par qui depuis le décret TASCA? Ils sont détenus par, alors vous avez De Chavannes, vous avez l'autre abruti, là, enfin bon, toutes Arthur. Ces sociétés, Arthur, merci, tu vois, on l'a reconnu, juste un mot, on le reconnaît, c'est génial. Bref, toutes ces sociétés de production privée qui gagnent un fric fou sur l'argent public parce qu'ils font payer aux chaînes publiques pour faire de la merde. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a une vraie diversité aujourd'hui à travers la production télévisuelle?
Non, mais l'alternative n'est pas seulement entre soit tout État, soit État.
Mais j'ai dit pas État, j'ai dit appropriation sociale. Il faut bien lire ce que je dis. Chaque mot est important.
La loi TASCA ouvre aussi la possibilité d'ouvrir la production.
Il n'y a que toi aujourd'hui en France pour défendre les décrets TASCA, toute la profession. Toute la profession, je dis bien, tous les partis à peu près en dehors de la droite sont contre les décrets TASCA. Et Catherine Tasca, que j'ai appelée avant d'écrire un grand article pour la revue de Pierre Bourdieu à l'époque, acte de recherche en sciences sociales, je l'avais appelée par courtoisie, parce que je la connais un peu, en lui disant, voilà, moi je vais faire mon travail sur les décrets. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui t'a motivé? Elle m'a dit, oh non, c'est loin, je m'en souviens plus. Elle ne peut même plus les défendre. Et c'est à la même époque que Mitterrand offre la cinquième chaîne qu'on vient de... Vous êtes jeune, vous en souvenez peut-être pas, mais enfin, il faut lire. Offre la cinquième chaîne qu'on vient de créer à l'époque. Il l'offre à qui? À Berlusconi.
Je vais jusqu'au bout de mon idée, si tu permets.
Ouais, on s'est bien marré avec la cinquième chaîne.
Bien sûr.
Donc, je vais jusqu'au bout de mon idée. L'idée, ce ne serait pas d'ouvrir la production au privé, mais d'ouvrir la production au secteur associatif de la même manière. Qu'il y a des radios associatives. Pourquoi confier la production de l'audiovisuel public à une seule société publique et pourquoi pas au monde associatif?
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle devait redevenir un bien public, les outils de production. Mais ils vont être gérés de manière appropriation sociale. Ça veut dire qu'il va y avoir les citoyens. Ok, il va y avoir tout. C'est pas l'État. Moi, je suis pour le dépérissement de l'État. Je suis d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut se remettre dans cette conception-là. Et c'est pour dégager toute la place nécessaire, justement, à tout le secteur, ce qu'on appelle le tiers secteur associatif, etc. Mais il va falloir aussi, du coup, exproprier les télés. Des villes comme Télé Toulouse qui sont financées par des conseils généraux, etc., pour l'ouvrir justement et libérer des fréquences pour tous les autres. Et nous les gérerons entre nous.
D'accord, mais alors, imaginons qu'on exproprie les télés et les radios, qu'on vire les entreprises privées, il faut savoir qu'une association peut être un fauné d'une entreprise.
Ah, oui. Mais comment
le Crédit Agricole, par exemple, c'est une coopérative. Pour ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec la petite coopérative sympa de copains.
Alors, moi, je propose de créer des GPMO. Non, mais je me suis marrée parce que dans les trucs, pour faire sérieux, il faut qu'il y ait des acronymes. Donc, j'ai fait groupe de propositions et de mise en œuvre. Alors, les membres de ces groupes seront issus des syndicats, des milieux professionnels et des assemblées de citoyens. Ils seront rémunérés à hauteur du salaire moyen national et seront remplacés dans leur activité professionnelle pendant leur mandat qui ne pourra pas, ça y est pas écrit, mais aucun mandat n'est renouvelable. Évidemment, tout le monde est révocable. Ça, c'est le mandat impératif, etc., etc. Donc, voilà, c'est pas l'État qui va gérer, surtout pas. Et ça s'appelle réappropriation sociale, ce qui n'existe pas pour l'instant, hein, nulle part, même dans le service public. Aucun service public n'est à gestion sociale, à gouvernance sociale.
Donc le débat contradictoire a eu lieu entre Gaël, qui avait peut-être un peu exagéré les termes. En tout cas, on pourrait résumer l'appropriation sociale comme une nouvelle façon de considérer les médias, c'est-à-dire plutôt de dire les moyens existent, donnons-le aux citoyens.
Absolument.
Sans forcément ni créer un vaste ministère de l'ORTF, et encore moins Bouygues au pouvoir de partout.
Par exemple, pour mieux me comprendre, parce que je ne voudrais pas que tu me prennes pour une folle, ce petit livre, il est tout petit, Raoul Vaninghem, L'État n'est plus rien, soyons tout. Rue des Cascades, c'est le nom de l'éditeur. Lisa, tu comprendras un peu ce que je veux dire, un peu plus précisément, parce qu'on n'a pas le temps là, mais voilà, en gros, c'est ça, quoi.
Alors, néanmoins, Gaël a aussi choisi la chanson qui suit. Nous allons écouter Les Vents Passent, Georges Marché.
Quand je vois la France, ça me dit qu'il faudrait qu'il retienne. Quand je vois le PCF, ça me dit qu'il faudrait qu'il retienne. Quand je vois ma maman, ça me dit qu'il faudrait qu'il retienne. Quand je vois tout ce qu'on me raconte, ça me dit qu'il faudrait qu'il retienne. Quand je vois Sarkozy, Georges Marché.
Levez-vous, le cabache.
Very good.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, émission mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Ce soir, les altermondialistes d'Attaque et les journalistes du PIAF.
Et nous allons écouter Magali nous parler du bilan chômage du gouvernement sortant.
Oui, puisque Nicolas Sarkozy a annoncé fin mars dans une radio, sur une radio concurrente, pour commenter les chiffres du chômage, qu'il y avait actuellement une baisse tendancielle de la hausse du nombre de chômeurs. Alors déjà, on apprend qu'une baisse ou une hausse peuvent ne pas être tendancielles, donc c'est intéressant. Et surtout, on est quand même assez surpris d'entendre ce genre de phrases qui sont préparées par des consultants en communication, qu'on pourrait qualifier d'experts en hypocrisie politique, et dont le rôle est manifestement de nous enfumer. Donc une baisse de la hausse, et pourquoi pas nous vendre carrément une diminution de l'augmentation des restrictions budgétaires pour favoriser un ralentissement de la baisse du pouvoir d'achat dans un contexte de relance de la croissance négative. Voilà qui nous ferait rêver. Donc qu'est-ce qu'on a derrière cette petite phrase « baisse de la hausse » Qu'est-ce cache-t-il ? Eh bien, il se cache tout simplement une réalité très négative, c'est la hausse constante et tendancielle du chômage qui touche désormais 10% de la population active, c'est-à-dire 2,8 millions de personnes. Et ces chiffres du chômage, ils n'ont jamais cessé d'augmenter depuis l'arrivée du gouvernement Sarkozy. Alors pourtant, le gouvernement, il a essayé pas mal de trucs. En 2008, il a adopté le dispositif de l'offre raisonnable d'emploi avec 3 offres refusées qui déclenchaient une suspension des allocations chômage. Depuis 2009, il a augmenté son effort sur les contrats aidés après avoir cherché à les réduire nettement. Et Xavier Bertrand, le ministre du Travail, a même demandé à ses services de réaliser un objectif sur la première moitié de 2012 de créer les 2/3 des 340 000 contrats qui étaient budgétés sur l'année. Donc voilà, il a demandé ça pour la première moitié de l'année 2012. Hein, donc toute coïncidence avec la période électorale est bien sûr fortuite. Bref, rien n'y fait. Malgré tout, le chômage augmente, et notamment celui des chômeurs les plus âgés. Car évidemment, pour compliquer un peu plus l'affaire de notre président candidat, il se trouve que quand on allonge l'âge de la retraite, les chômeurs âgés restent un peu plus longtemps au chômage. quant à la pauvreté, elle est loin d'avoir reculé, puisque le dernier rapport de l'INSEE sur les inégalités de revenus note que la part des très pauvres a même augmenté. Malgré ça, en décembre 2011, le gouvernement coupe 153 millions d'euros de dotations publiques à la lutte contre la pauvreté, dont 28 millions pour le SAMU social. Et puis, bien entendu, pour conclure, au bilan social du gouvernement Sarkozy, il faut ajouter la casse de l'éducation, 15 000 postes supprimés chaque année, ou encore la réduction de la part des dépenses de santé financées par la sécurité sociale et accompagnée d'une augmentation des tarifs des mutuelles. Et pour couronner le tout, ce fameux bouclier fiscal, cadeau fait aux plus riches, devenu un tel boulet électoral qu'il a fallu le supprimer, mais après qu'il ait bien grevé les finances publiques. Bref, un programme tout à fait cohérent. Alors, je n'ai pas de chute pour cette chronique, hein, il faut le savoir, donc on va écrire la chute le 6 mai prochain.
Oui, mais t'as pas une chute tendancielle et relative de la hausse de la baisse?
Si, si, bien sûr, une hausse de la baisse.
Mais si, on a une chute, on a...
Une croissance négative.
On a une chute, on a les adieux du président, enfin les adieux du président Claude Mire.
Mais où allez-vous, président Claude Mire?
Prendre l'air, monsieur White.
Mais la fenêtre, c'est par ici, par là, c'est la porte.
Quand je dis prendre l'air, je veux dire m'envoler. Ouais. Repartir dans l'espace, à bord de ma cuillère filante.
Non,
comment?
C'est pas ça, encore.
Si, 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 Aline, c'est ça. Nous allons maintenant passer à ta chronique concernant deux peuples en devenir, les Chirons existants mais non reconnus, le peuple du Chiapas au Mexique et du Sahraoui au Maroc.
Voilà. Alors, c'est pas... Alors, je reprends. Les Sahraouis, c'est un peuple qui est dans le Sahara occidental, qui avait été colonisé d'abord par l'Espagne, puis décolonisé par l'Espagne et recolonisé par le Maroc à l'époque, cette fameuse marche verte qui a servi à d'autres choses d'ailleurs pour le roi du Maroc à l'époque, pour éviter d'autres tensions dans son propre pays. Et qui, donc, c'est toujours un peuple colonisé, à l'instar du peuple palestinien. Et il y a d'ailleurs un mur de 2700 kilomètres qui partage le Sahara et qui est gardé par les forces de l'ONU, la MINURSO, depuis. Donc, quand même, ça coûte très cher. Et on demande, et toutes les résolutions internationales depuis des dizaines et des dizaines d'années, demandent, exigent du Maroc qu'il organise un référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui, et bien sûr, le Maroc ne le fait pas. Alors, on revient à l'information, il y a un blackout total en France, parce qu'évidemment, politique et journaliste, dernièrement, Martine Aubry est allée la semaine dernière, adore aller inviter par le roi du Maroc, évidemment, passer quelques jours à la Mamounia ou ailleurs, c'est toujours très agréable, et du coup, on ne parle jamais du peuple sahraoui.
Mais est-ce que les Sahraouis ont du pétrole et des tagines?
Eh oui, ils ont surtout une mer très poissonneuse, et d'ailleurs, on a eu... Quand même au Parlement européen, on avait réussi à faire échec à l'accord de pêche parce que ce sont les eaux les plus poissonneuses. Et donc, le Maroc, évidemment, et puis il y a des mines d'uranium, etc., de phosphate surtout. Donc voilà. Et ce peuple est un peuple extraordinaire. À une époque, il a fait une lutte armée avec le Polisario, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Et ils ont abandonné la lutte armée depuis longtemps. Ce sont des nomades, ce sont des gens vraiment assez extraordinaires. Une partie est en exil en Algérie. Ils ont été accueillis dans des camps et puis beaucoup en exil. Et puis une partie est de l'autre côté du mur. Et puis aussi beaucoup sont en prison, notamment le coprésident de l'association que je préside, le Corelso, sur les droits de l'homme au Sahara occidental. Donc à l'ONU, c'est essentiellement la France qui bloque tout ce qui pourrait être fait pour qu'enfin les résolutions soient appliquées. Donc demain, il y a un rassemblement à 15h, de 15h à 18h, à l'esplanade des droits de l'homme, place du Trocadéro. Si vous voulez connaître le peuple sahraoui, le rencontrer, il y aura là beaucoup de gens qui sont en exil, qui seront ici. Il y a une très grosse lutte qui se fait en Espagne, par exemple Bardem. Hein, le magnifique Bardem, il vient de produire un film. Il y a qu'en France qu'on n'en parle pas du peuple. Oui, on croit qu'il n'existe plus. Donc voilà. Alors demain, il y a ce rassemblement. Et puis voilà, allez sur Internet, allez voir un peu ce que fait le peuple sahraoui. C'est intéressant.
Je crois qu'on a eu quand même un grand connaisseur du peuple sahraoui dans l'histoire de France, qui s'appelait Philippe Pétain.
Ah, mais pour, je ne sais pas pourquoi tu dis ça.
Quand
dis-moi.
Il était encore militaire au poste au Maroc, il me semble.
Ah bon, et ça, je ne connais pas.
Il faudrait peut-être creuser, mais ouais, je crois qu'il connaissait bien.
Sans doute.
Il en a réprimé quelques-uns, je crois.
Oh, sans doute. Hein. Donc voilà, pour le peuple sahraoui, bon, il y aurait beaucoup à dire, mais on peut revenir faire une émission, si ça vous intéresse, sur le peuple sahraoui. Il y en a beaucoup hein, à Paris. Sur le Chiapas, c'est différent. Le Chiapas, ce sont le Mexique, hein, c'est beaucoup de peuples indigènes. Hein. Vous avez, je ne sais pas, les bon, je vais pas revenir sur tous les peuples qui font de le Mexique. Et il y a un État, l'État du Chiapas, qui, lui, a connu une révolution le 1er janvier 1994, par exemple, 1er janvier 1994, je suis un peu fatiguée, pardon. Ce jour-là, on a découvert le sous-commandant Marcos et tous les combattants de l'armée de libération, le ZLN, avec leur passe-montagne. Alors, c'est pas du folklore, hein, c'est parce qu'ils sont encore aujourd'hui pourchassés, assassinés, enlevés, etc. Mais surtout, ce jour-là, eh bien, a commencé l'appropriation des terres. Hein, ils ont, les Indiens ont repris leurs terres et ils, depuis 18 ans, ils sont en train de construire l'autre monde dont on rêve. Et c'est extraordinaire. Ils ont un système de santé, d'éducation, de justice. Ils ont tous des radios libres dans toutes les communautés. Et ils ont un système de gouvernement tel qu'on le disait. Alors, dans notre livre, moi, je les cite. Les Pinsons Charlot les cite aussi. Là aussi, allez voir. Mais il y a des bouquins. L'étincelle zapatiste, c'est un bouquin magnifique de Jérôme Bachet. Je pense que c'est celui qui vous donnera la plus sûre histoire de cette révolution. Alors moi, j'y étais jusqu'au 14 janvier, là, et j'ai vu en marche ce que c'était que les promoteurs de santé, ce que c'était que ces gouvernements. Mais là aussi, il faudrait beaucoup de temps. Vous voyez, je suis en train de massacrer un peu l'information. Et quand on les a quittés, ils nous ont dit, s'il vous plaît, quand vous rentrez en France, il y avait des gens du Chili, d'Espagne, du monde entier, de Cuba, etc., dites-leur que nous ne sommes pas morts, que nous le construisons, ce monde, et qu'il est beaucoup plus performant que le monde du Mexique classique. Qu'est-ce que vous attendez pour vous révolter, vous autres, dans les villes et dans le premier monde, parce que les Indiens parlent comme ça, avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Voilà, mais je pourrais en parler des heures, et il faudrait en parler d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a... Si on n'en parle pas, que ce soit des Sahraouis ou que ce soit d'ailleurs des Apatistes du Chiapas, c'est bien parce qu'ils nous donneraient du courage, hein. Ils nous encourageraient, ils nous montreraient que le monde dont nous rêvons est possible, et ça, il faut surtout pas nous le prouver. Hein. Au contraire, il faut nous faire peur pour qu'on aille se réfugier dans des votes, par exemple, qui semble nous rassurer parce qu'ils ne changent rien, ils ne bouleversent rien, ils mettent un peu de pansement ici, un petit peu de baume au cœur là, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, il ne faut surtout pas connaître ces gens-là. Eh bien si, moi j'ai dit qu'il faut les connaître.
Et c'est très bien. Et si on veut commencer déjà à résister en France, nous allons faire le petit agenda rapide des différentes manifestations à venir dans les semaines à venir. Tout d'abord, on vient de parler à l'instant, demain, du rassemblement...
De 15h à 18h, Esplanade des droits de l'homme, place du Trocadéro.
Alors, en concurrence un petit peu, demain, samedi 14 avril, place Gambetta, je n'ai pas l'heure, il y a un rassemblement pour portant l'exigence d'un système de santé solidaire et de proximité. C'est en lien avec des manifestations à travers toute l'Europe ce week-end, en Espagne par exemple, le 15 avril.
Lundi 16 avril, de 19h à 22h, une soirée d'information pour comprendre la dette de l'État à Culture et Liberté, 5 rue Vincent de Paul, Saint-Vincent-de-Paul.
Alors, mercredi 18 avril, donc, une conférence de Patrick Marcolini sur le mouvement situationniste à 19h45 au CICP 21 rue Terre rue Voltaire.
Raoul Van Engen est de cette ligne-là, hein, dont je parlais tout à l'heure.
Le samedi 21 avril, c'est l'arrivée de la marche à Paris des indignés qui viennent d'un peu partout et surtout d'Espagne. Il y a toute une journée de festivités et de conférences, voir sur le site marcheparis2012.com.
Si vous en avez assez des manifs tristes, une parade manifestive, les fanfares s'indignent. C'est samedi 28 avril à 15h au Châtelet. Une résistance festive, joyeuse et solidaire avec des fanfares.
Ouais, le sous-commandant Marcos, il dit « Si ta révolution ne danse pas, ne m'invite pas à ta révolution ». Mais le vendredi 4 mai, de 14h à 22h, au Théâtre de l'Odéon, place de l'Odéon, ça va faire du bien entre les deux tours, nous avons un colloque Pierre Bourdieu, l'insoumission en héritage, sur toutes ces questions dont on parle, la culture, le système scolaire, le journalisme, le champ politique, etc. etc.
Et voilà, et on remercie tout le monde. Merci Annie Payet, notre invité. Merci Jean-Marc, merci Magali, merci
Merci Yael, à vous,
merci Sylvain et Claude
super.
À la technique. Et nous écoutons pour terminer, évidemment, en souvenir de cette future élection présidentielle, Hexagone, chanté par les Têtes Raides.
Mais depuis des éternités, la fatalement changé la France.